Je suis avec Guillemette Payen. Vous êtes associé chez EIM. EIM, c'est Executive Interim Management. Donc en fait, comme son nom l'indique, c'est une société de management de transition. Qu'est-ce que c'est exactement le management de transition ?
C'est une pratique qui nous permet en fait d'aider les entreprises à piloter leur organisation et à réussir leurs projets, et spécialement, j'allais dire, dans des contextes de transformation et de changement.
Donc soit vous remplacez des managers qui sont absents, soit vous mettez des managers supplémentaires dans des projets de transformation, par exemple.
Absolument. Donc on est effectivement appelé pour ce qu'on peut appeler du management relais, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des managers qui vont occuper temporairement un poste qui est vacant et qui vont apporter toute leur expertise, tout le caractère opérationnel qu'ils ont, et aussi les best practices et l'œil neuf qu'ils ont pu acquérir dans d'autres expériences pour à la fois tenir le poste et l'optimiser.
Alors c'est un marché...
C'est le premier cas.
Oui.
Et le deuxième cas, c'est effectivement de mettre en place des ressources de grande qualité pour piloter des chantiers, pour mener des projets.
Alors c'est un métier que vous pratiquez depuis 30 ans. Classiquement, il se pratique plutôt sur des postes de direction générale ou de direction financière, etc. Et depuis peu, vous développez le marché du marketing.
Alors, je dirais que c'est un marché qui s'est développé effectivement sur les fonctions de direction générale, de direction support, et c'est spécialement le cas de EIM qui est plus spécialisé dans ses missions de comité de direction, de comité exécutif. Et on a toujours été présent sur l'ensemble du spectre de ces fonctions-là. En revanche, il est vrai que les fonctions de direction marketing, direction commerciale étaient peu demandées en management de transition, et on est en train de voir une évolution de cette demande. Et c'est vrai que le marketing étant lui-même en pleine transformation est maintenant en attente de profils un peu différents, de compétences qui arriveraient de l'extérieur pour permettre aux entreprises d'optimiser leur marketing et la digitalisation de leur process marketing.
Alors cette fonction marketing, c'est quelque chose de nouveau, mais ça représente déjà un bon pourcentage de vos missions et un pourcentage de votre vivier également.
C'est un pourcentage significatif de notre vivier, que j'estimerais autour de 15%. C'est encore un petit pourcentage de nos missions, mais je dirais que c'est un pourcentage to be. C'est-à-dire que c'est certainement, on l'observe déjà, on est de plus en plus interrogé et on a plus de leads dans notre jargon qu'on avait avant. Et on a aussi des missions qui sont en chiffres croissants, sans que ce soit encore... Il faut être clair, quelque chose qui se développe de façon exponentielle, mais c'est régulier.
Et ça représente déjà à peu près 5% de vos missions aujourd'hui.
Oui, je ne vais pas vous dire le compte exact, mais je dirais un gros 5%.
Alors, avant que ça se développe, justement, les dirigeants étaient plutôt réticents à embaucher des marketeurs. Pourquoi ?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Je pense qu'il y avait une certaine réticence déjà à penser qu'une personne qui arrive de l'extérieur, toute expérimentée et compétente qu'elle soit capable de s'immerger rapidement dans l'histoire d'une entreprise, dans sa culture, dans son ADN. Donc une certaine réticence interne à confier les clés de sa marque, tout simplement, à quelqu'un qui arrive, qui débarque et qui est là relativement peu de temps. Je pense qu'il y avait aussi une autre raison. C'est que le marketing était perçu comme une pratique assez généraliste et que il semblait qu'on n'ait pas forcément besoin, en cas de vacances de poste, un congé maternité ou une personne qui parte rapidement, de la remplacer au pied levé immédiatement et qu'elle pouvait être compensée par des équipes qui étaient en dessous, qui avaient souvent un très bon niveau, ou par le patron qui était au-dessus. Contrairement à un DRH qui doit sortir une paye tous les mois, contrairement à un directeur financier qui a une obligation de clôture mensuelle de ses comptes, c'était pas le cas du marketing.
Alors donc les choses ont changé. Donc ça veut dire que c'est pas seulement le marché du management de transition qui a changé, c'est le marketing qui a changé aussi.
Bien sûr, le marketing, c'est avant tout le souhait du client, c'est de s'adresser à un client. Et on sait qu'aujourd'hui, le client est absolument central dans la transformation de l'entreprise. Il y a, Le nouveau réacteur nucléaire des entreprises, c'est s'occuper de son client, le mettre au centre, c'est s'occuper et optimiser son parcours client, c'est fidéliser ses clients. Et donc, le marketing devient au centre de toute l'attention d'une direction générale et on lui demande de se transformer très rapidement, on lui demande de se professionnaliser, on lui demande évidemment de se digitaliser. Et donc, ce sont des enjeux très forts pour toutes ces fonctions-là, des enjeux en termes de charge de travail, de différents chantiers à entamer. Donc il faut des ressources nouvelles, il faut du sang neuf, et puis il faut aussi des nouvelles compétences.
Alors peut-être vous pouvez, sans nous citer de clients, nous donner quelques exemples de missions qui ont été réalisées par ces marketeurs.
Alors chez UIM, on a eu des missions qui étaient à la fois pour remplacer des directions marketing sur des postes, donc des postes qui étaient temporairement vacants, et on a eu aussi des demandes de missions et on a réalisé des missions sur des projets de transformation. Donc sur des postes vacants, ça peut être dans un secteur très très classique, j'allais dire du secteur des médias ou de l'entertainment, une vacance de poste, une personne qui arrive compétente mais qui va se trouver face non seulement à des problématiques de faire monter toute une équipe en compétence et de lui apprendre de les faire monter en compétence sur le digital, mais également de prendre à bras le corps immédiatement des projets comme le déploiement d'un CRM par exemple.
Ok. Donc le digital, on voit dans cet exemple, il y en a d'autres, et joue un rôle très très important, très moteur dans ce changement du marketing et du management de transition qui inclut le marketing.
Bien sûr. Et quand on parle en fait de missions de marketing qui peuvent aller croissant, c'est évidemment des missions de marketing qui incluent un très gros volet digital. Un directeur marketing qui est attendu aujourd'hui sur un poste même basique doit maîtriser aussi bien le management de fonctions très classiques que sont du branding, du développement de marque, de l'achat média, de l'événementiel ou des relations presse, mais évidemment doit être capable de gérer des équipes qui sont omnicanales et des programmes de fidélisation, d'acquisition de clients qui sont omnicanales.
Alors sur certaines missions, vous pouvez même aussi recruter des gens qui sont plus experts, plus pointus, comme dans cette mission d'un acteur de e-commerce qui voulait racheter un autre acteur de e-commerce.
Absolument. Et dans ce cas-là, cet acteur de e-commerce voulait auditer finalement sa future acquisition avec un œil très digital, très marketing, pouvoir auditer les performances du site, la façon dont le site pouvait se transformer, la façon dont le site était capable de transformer ses prospects en clients. Et il a eu besoin d'une compétence marketing, d'une compétence digitale et d'une compétence e-commerce, les trois mêlés, pour pouvoir aussi lui faire une estimation de ce site et le valoriser, mais aussi pouvoir bâtir une stratégie de repositionnement de ce site et au sein de sa structure.
Alors ce vivier qui au total fait à peu près 8000 personnes, donc si je compte bien les 15%, ça fait à peu près 1200 personnes qui sont concernées par le marketing. Ça peut être, c'est qui en fait? Ce sont des consultants, des gens qui travaillent en CDD peut-être?
Non, c'est majoritairement des gens qui ont eu des fonctions de management en entreprise. Donc ce sont des directeurs marketing, des directeurs marketing digital, des directeurs e-commerce. Ce sont des gens qui peuvent avoir eu des compétences dans le transport aérien et qui vont être très très légitimes pour aller aider un parc d'attractions qui aura à peu près les mêmes soucis. Ça peut être des gens qui viennent d'un secteur FMCG et qui vont aller aider des entreprises de services. Ce sera des gens qui venaient du B2C, qui auront acquis des best practices de B2C, qui vont aller aider une entreprise B2B. On a eu le cas nous, dans un univers de pneumatique, hein, c'est un univers tout à fait B2B, c'est quelqu'un de B2C qui est venu mettre en place ces best practices. Donc ce sont des gens qui ont été en poste, qui ont eu 20-25 ans d'expérience de management d'équipe, de comité de direction, de vision à la fois très stratégique et très opérationnelle, et qui ont comme particularité d'être des gens adaptable, ouvert, curieux, avec de l'humilité hein, pour s'imprégner de l'entreprise dans laquelle ils rentrent, et puis qui ont quand même tous en commun aussi un grand pragmatisme et qui sont très, très centrés sur l'action et qui sont orientés résultats. Voilà.
Puis il faut qu'ils soient aussi disponibles pour des missions qui sont assez longues finalement.
Bien sûr, c'est des missions qui sont au minimum de 4 mois, plus généralement de 7-8 mois, et on a des missions qui vont facilement jusqu'à 12 à 15 mois.
Et donc qu'est-ce qui se passe au bout de ces 12 à 15 mois quand le consultant en question, enfin le manager de transition plutôt, en question, a fini sa mission, il a passé 15 mois dans une entreprise, il n'a pas prospecté, donc il rentre chez lui, qu'est-ce qui se passe?
Alors, il peut se passer plusieurs choses. Il peut se passer qu'il a tellement séduit l'entreprise qu'il peut rester, à ce poste, il peut rester à un autre poste. C'est jamais le postulat de départ, mais quelqu'un qui a fait forte impression, souvent on a du mal à s'en séparer. Donc on a quand même un certain pourcentage de nos missions qui se terminent par une embauche. Ou ensuite c'est quelqu'un qui revient sur le marché du travail avec une expérience de plus sur son CV, avec souvent le fait d'avoir une corde de plus à son arc en termes de secteur ou en termes de problématiques et de contexte. Et en général, qui a eu une mission passionnante, parce que c'est une mission qui a toujours des très gros enjeux, qui a toujours un objectif avec un début, une fin, un pilote. Donc c'est des missions qui sont extrêmement gratifiantes pour le manager en transition.
Alors, la dernière question pour clore l'entretien, est-ce qu'un manager de transition coûte plus cher qu'un consultant?
Un manager transition, par rapport à la valeur ajoutée qu'il apporte, ne coûte pas plus cher qu'un consultant.
Et il coûte plus cher qu'un manager, quand même.
Il va être surdimensionné par rapport à sa mission, donc il va coûter légèrement plus cher que le manager qu'il remplace. En revanche, il va être économique par rapport finalement au niveau qu'il a et à la valeur ajoutée qu'il apporte dans le poste.
C'est un bon rapport qualité-prix.
C'est un excellent rapport qualité-prix.